Radio Prague, les informations.
Václav Havel se rendra pour 4 mois aux États-Unis. Václav Klaus poursuit des négociations sur la formation d'un nouveau gouvernement. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera paraîtra en tchèque aux éditions Atlantis. Václav Havel, accompagné de son épouse Dagmar, se rendra samedi pour 4 mois aux États-Unis. Pendant son séjour à New York et à Washington, l'ex-président tchèque donnera des conférences, participera à des débats et à toutes sortes de manifestations culturelles et de sociétés. Un festival consacré à l'ensemble de la création dramatique de Havel commencera la semaine prochaine à New York et s'étendra jusqu'au début décembre. Le président Václav Klaus a poursuivi des négociations sur la formation d'un nouveau cabinet qu'il mène avec les leaders des principales formations politiques en recevant ce jeudi les représentants des Verts. Ce dernier parti refuse catégoriquement l'alternative de formation d'une grande coalition entre le Parti civique démocrate et le Parti social-démocrate, favorisant un gouvernement d'experts. La première parution officielle en tchèque de l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera aux éditions Atlantis est prévue pour le début de la semaine prochaine. C'est un véritable événement littéraire car à ce jour l'une version tchèque du célèbre roman avait paru au milieu des années 80 aux éditions des Épouches Kvoretsky au Canada. Les finalistes du prix européen de l'architecture présentent leurs travaux à l'exposition qui a été inaugurée à la chapelle de Bethlehem à Prague. Le prix porte le nom du grand architecte Ludwig van den Rohe, auteur de la villa Tugendhat à Brno, par exemple. La nouvelle théorie de l'économie et du management des organisations, voilà le nom d'une conférence scientifique internationale qui se déroulera ce vendredi dans les locaux de l'École supérieure d'économie à Prague. Ce vendredi soir, le théâtre Schadal de Liberec présentera en première un nouveau ballet sur le thème de la vie et de la création de Frédéric Chopin. Le tennisman tchèque Tomáš Berdych s'est qualifié en quart de finale au tournoi Masters à Madrid en battant l'ex-numéro 1 mondial Andy Roddick, finaliste de US Open de cette année. Météo, ce vendredi, le jour de fête de Vendelin, un nom tchèque assez archaïque, le ciel sera presque couvert et les températures diurnes varieront autour de 15 degrés. Le matin, pourtant, elles pourront chuter jusqu'à zéro. Des précipitations pourront apparaître dans la partie occidentale du pays, notamment. C'était le journal préparé par Alena Gebertova.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Prague, merci de votre fidélité. Suite de notre émission en français, avec aujourd'hui notamment un coup de projecteur sur la scène politique tchèque avant les élections de ce week-end. Une scène politique agitée par une crise gouvernementale depuis maintenant près de 5 mois. Vous entendrez l'analyse du correspondant du quotidien français Le Monde dans cette émission. L'association des jeunes communistes a été dissoute par le ministère de l'Intérieur, les raisons invoquées de cette décision dans un instant. Les enfants maltraités, un problème que les autorités tchèques veulent aider à résoudre après la publication de statistiques inquiétantes. Et puis, nous terminerons cette émission avec du sport pour prendre des nouvelles de Petr Čech, l'un des meilleurs gardiens de but du monde, grièvement blessé à la tête samedi dernier lors d'un match disputé avec son club anglais, le FC Chelsea. Mais pour commencer cette émission, tout de suite un point sur la position tchèque dans le litige qui oppose depuis quelque temps déjà la Géorgie de Mikhaïl Saakachvili à la Russie de Vladimir Poutine. Les dirigeants des 25 pays de l'UE retrouveront pour la première fois ce vendredi en Finlande le président russe invité au sommet européen informel de Lahti. Les pays membres de l'Union européenne sont partagés entre leur volonté d'approfondir leurs relations avec ce partenaire stratégique et leurs inquiétudes face à l'évolution autoritaire du Kremlin. Force est de constater que ce sont certains des anciens pays du bloc communiste, dont la République tchèque, qui sont plus réticents que d'autres à faire preuve d'indulgence envers la politique de Moscou vis-à-vis de Tbilissi. C'est d'ailleurs le ministre tchèque des Affaires étrangères, Alexander Vondra, qui a initié le débat mardi dernier au Luxembourg, lors de la rencontre des chefs de la diplomatie de l'UE. Son premier secrétaire, Tomáš Pojar, explique.
Nous sommes inquiets du développement des relations russo-géorgiennes et appelons les deux parties à renouer le dialogue. Les sanctions économiques imposées par la Russie nous paraissent être un peu inadéquates et peu à même de calmer la situation. Nous soutenons un règlement pacifique des conflits en Abkhazie, en Ossétie du Sud et respectons l'intégrité du territoire géorgien.
Les plus grands pays de l'Union européenne font pour l'instant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du régime de Poutine, qui a repris en main ces dernières années les immenses ressources énergétiques du pays. Même s'il affirme que de bonnes relations avec Moscou sont importantes pour tous, Tomáš Pojar précise qu'elles n'empêchent pas les critiques.
Nous avons intérêt à maintenir les meilleures relations possibles avec la Russie. Et en ce qui concerne les relations russo-tchèques, de notre point de vue, ces relations sont très bonnes. Mais d'un autre côté, dans une relation équilibrée entre partenaires, il est normal que lorsque l'un n'est pas d'accord avec les actes de l'autre, il manifeste son désaccord. Nous sommes convaincus qu'une solution pacifique dans le sud du Caucase est dans l'intérêt de tous, de l'Europe, de la Russie, de la Géorgie et de ses voisins dans la région.
Et ajoutons pour finir que Prague se dit prêt, si les partis en font la demande à l'avenir, à servir de médiateur entre Russes et Géorgiens. Politique intérieure maintenant, les élections municipales et sénatoriales partielles auront lieu ce vendredi et samedi en République tchèque. Quel est leur principal enjeu dans une configuration où la scène politique nationale semble plus fragilisée que jamais? Alena Gebertova a posé la question à Martin Plichta, correspondant du quotidien français Le Monde à Prague.
Le principal enjeu est bien sûr de renouveler une partie de ce Sénat et de donner aux mairies de nouvelles équipes ou de prolonger celles qui dirigeaient les villes. Bien sûr, derrière, il y a un enjeu bien plus important, c'est celui de savoir peut-être de redistribuer les cartes politiques quelques mois après les élections législatives de juin dernier qui se sont achevées, comme on le sait, sur un score ex aequo entre la gauche et la droite, score qui paralyse depuis maintenant 5 mois la situation politique dans le pays.
Plusieurs affaires et scandales, très médiatisés d'ailleurs, sont apparus presque la veille de ces élections liées aux partis politiques.
Je pense que c'est devenu maintenant une tradition que les scandales et affaires de corruption, de clientélisme ou d'autres genres apparaissent toujours à quelques jours des élections. Je ne sais pas à quel point ces affaires peuvent influencer le vote des électeurs. J'ai l'impression que ça fait partie un peu du folklore maintenant et je n'y accorde pas trop d'importance. En tout cas, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment changer le cours des choses à 2 jours ou à 1 journée des élections.
Selon quels critères les électeurs tchèques choisissent-ils les candidats aux municipales ? S'agit-il de critères un peu différents qu'aux élections législatives ?
Oui, dans une grande partie du pays, la plupart des listes, surtout dans les petites villes ou communes ou bourgs, sont des listes souvent indépendantes, sans parti. Les gens font leur choix par rapport aux personnalités qui la composent, à leur passé, à leur action, s'ils demandent à prolonger leur mandat, ou au contraire, quand ils étaient dans l'opposition, comment ils se sont positionnés par rapport à un certain nombre de thèmes brûlants pour la vie dans ces communes. Au niveau des grandes villes, le poids des partis traditionnels est plus important et le choix est un peu plus dicté par les orientations politiques de ces formations. Ce n'est pas obligatoirement la politique municipale qui décide là du vote des Pragois. C'est aussi vrai dans d'autres grandes villes.
C'était Martin Plichta, le correspondant du Monde à Prague. L'association des jeunes communistes, le KSM, a été dissoute mercredi par le ministère de l'Intérieur en raison de son programme faisant état de son ambition d'éliminer la propriété individuelle des moyens de production. L'association a déjà indiqué vouloir déposer un recours. Yarka Gisubelova pour plus d'informations.
Le KSM réunit les jeunes de 15 à 35 ans à orientation révolutionnaire. Ainsi se présente l'association des jeunes communistes. Depuis un an, le ministère de l'Intérieur lui adresse des avertissements concernant son programme. Même si la formule sur le renversement du capitalisme par la voie révolutionnaire a été atténuée en mars dernier, le ministère refuse de continuer à tolérer une autre partie de son programme, faisant état de son ambition, nous citons, éliminer la propriété individuelle des moyens de production pour la remplacer par la propriété collective. La décision de dissoudre le KSM a été prise après examen du texte en question, dont le contenu est incompatible avec les principes démocratiques, souligne Marie Massajikova, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Elle explique pourquoi.
Parce que l'association civique des jeunes communistes a déployé une activité qui est en contradiction avec la Constitution de la République tchèque, la Charte des droits et libertés fondamentaux et la loi sur la liberté de rassemblement. Dans ce cas-là, le ministère de l'Intérieur a l'obligation de décider de sa dissolution.
Les jeunes communistes s'y opposent en affirmant par la voix de leur président, Milan Krecha, n'avoir pas agi contrairement à la Constitution.
Le KSM n'a violé aucune loi et il considère la décision de sa dissolution prise par le ministère de l'Intérieur comme un acte politique.
Le KSM a déjà indiqué qu'il allait déposer un recours contre cette décision. Selon son président, une vague se lève à l'étranger contre la criminalisation de l'association des jeunes communistes et le groupe de la gauche européenne unie du Parlement européen a manifesté son soutien. Un soutien est également apporté aux jeunes communistes par le Parti communiste de Bohême-Moravie, qui n'est toutefois pas unanime, alors que son président, Wojciech Filip, leur promet une aide juridique. Le vice-président Jiří Dolejš leur a recommandé d'adopter la thèse de la pluralité de la propriété, qui figure également dans le programme du Parti communiste. Le politologue Petr Just a dit à la télévision tchèque que la décision du ministère était compréhensible. Aucun État ne laisserait agir à l'intérieur de son système une organisation qui fait état de son ambition de le remplacer par un autre. Le ministère de l'Intérieur n'a recours que dans des cas exceptionnels à ce genre de décision. En 2000, il avait dissolu l'Alliance nationale, puis le Rassemblement de la jeunesse républicaine en 2002.
On passe maintenant au sport. Victime d'une fracture du crâne samedi dernier lors du match opposant son équipe de Chelsea à celle de Reading en championnat de football anglais, Peter Cech reste toujours en soins intensifs à l'hôpital d'Oxford. Mais 5 jours après une agression dont les images ont fait le tour du monde, le gardien international tchèque est déjà sur la voie du rétablissement, comme nous le dit Guillaume Narguet.
Même si la durée de son indisponibilité reste encore inconnue, une chose est cependant certaine. Peter Cech va mieux. Mercredi, soit 3 jours après l'opération réalisée par les médecins neurologiques d'Oxford, il a même pu suivre à la télévision la victoire des Blues aux dépens de Barcelone en Ligue des Champions. Une victoire que ses coéquipiers lui ont d'ailleurs dédiée, ainsi qu'à son remplaçant, l'italien Carlo Cudicini, lui aussi contraint de quitter la pelouse sur une civière lors de la même rencontre. À Prague et dans le reste du pays, l'annonce de la blessure à la tête du gardien de la sélection et la diffusion des images choquantes qui l'ont suivie ont suscité une immense vague d'émotions. Car si le jeune homme, âgé seulement de 24 ans, est admiré pour ses talents de joueur, il est également très apprécié pour ses qualités humaines, relativement rares dans le petit monde du football. Une réussite professionnelle et un comportement exemplaire hors des terrains qui lui valent aujourd'hui d'être l'un des sportifs préférés et parmi les plus populaires auprès des Tchèques. Un respect et une sympathie que ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de manifester à Petr Čech tout au long de cette semaine d'hospitalisation, comme l'explique son manager Pavel Zika.
C'est la première chose que Peter m'a demandé avec insistance de faire, remercier tous les gens qui lui ont envoyé leur message de soutien et de sympathie. C'est assez exceptionnel, nous recevons chaque jour des milliers de courriels et de lettres. Tout le monde lui souhaite un prompt rétablissement, c'est même devenu une affaire nationale et cela aide beaucoup Peter moralement.
Cela l'aide d'ailleurs tellement qu'à en croire la presse tchèque, Petr Čech pourrait retrouver son domicile et sa femme dès ce week-end. Mais bien qu'un éloignement des terrains d'un an, voire un arrêt de carrière, ne semble plus devoir être envisagé, comme cela fut le cas peu de temps après le coup de genou qu'il a reçu au visage, une absence de plusieurs mois n'en reste pas moins d'actualité.
Et c'est la fin de ces faits et événements en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez-nous sur Internet au www.radio.cz.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gregorova.
Věra Menšíková est la première femme à devenir championne du monde aux Jeux d'échecs. Elle a obtenu ce titre à 7 reprises, et ce ne fut qu'une mort prématurée qui l'en sépara. Věra avait tout pour devenir championne dans cette discipline réfléchie. Elle était calme, équilibrée, discrète, plutôt effacée, ne désirant surtout pas attirer l'attention. C'était une adversaire redoutable, imbattable et très respectée. Très sociable, elle avait beaucoup d'amis. Pour ce qui est des tournois d'échecs, Věra Menšíková s'est déplacée dans le monde entier. Montevideo, Paris, Scarborough, Carlo Vivari lui étaient aussi familiers que Varsovie, Nottingham ou Stockholm. L'année de Věra Menšíková a été déclarée en 1994 par la Fédération internationale d'échecs, et cela à l'occasion du 50e anniversaire de son décès tragique. Des tournois d'échecs, différentes activités culturelles, des séminaires, le concours international Chess Photo 94 ont accompagné cette année mémorable. La cerise du gâteau fut le super tournoi du top mondial féminin en jeu d'échecs. Sur le plan mondial, l'année de Věra Menšíková a été officiellement inaugurée en novembre au Brésil dans le cadre du congrès de la Fédération internationale d'échecs, également en 1994. La championne du monde aux Jeux d'échecs est née en février 1906 à Moscou. Sa mère était anglaise et son père tchèque. C'est ce dernier qui lui a appris à jouer le noble jeu de la raison et de l'équilibre mental. Věra, âgée de 10 ans à peine, développe déjà un talent incroyable. De plus, le milieu où elle vit est très propice. Le Moscou de l'époque était un vrai paradis pour le jeu d'échecs. Par contre, on ne connaîtra jamais la raison du séjour de plusieurs années de la famille dans la capitale de la Russie. Cela reste un mystère indéchiffrable. La révolution en Russie et la destitution du tsar en octobre 1917 apportent des changements au niveau non seulement de la vie politique, mais également culturelle et sociale. 4 ans après la Révolution, la famille Menšík part à Hastings en Angleterre, ville où vit la grand-mère maternelle de Věra. Hastings est célèbre pour les tournois de Noël, une tradition de longue date. Věra se fait vite remarquer et à 17 ans, elle devient membre du club de Hastings. C'est là qu'elle rencontre le fameux champion Geza Maroshi. Le champion quinquagénaire est absolument sidéré par le talent de la jeune fille et s'engage à lui donner des cours. Un an plus tard, Věra joue contre la meilleure joueuse d'Angleterre. La première partie est nulle, mais les deux suivantes sont remportées par la jeune tchèque qui bat d'un point l'anglaise. Malheureusement, elle ne peut pas participer au championnat britannique, étant donné qu'elle est de nationalité tchécoslovaque. 1927, elle assiste au premier championnat du monde d'échecs des femmes à Londres, où se présente également sa sœur cadette Olga. Celle-ci jouait bien aux échecs, sans pour autant atteindre la virtuosité de sa sœur aînée. Viera Menchikova gagne 10 parties sur 11 et devient ainsi la première championne du monde de sexe féminin. 2 ans plus tard, on voit Viera au tournoi international à Karlovy Vary. Elle est l'unique femme qui fait partie du tournoi masculin. Pour la première fois, elle a tenté l'expérience à Ramsgate, où elle a battu son propre maître Geza Maroshi. La raison de sa décision jouée contre les hommes était toute simple. Les femmes n'étaient plus des adversaires de taille pour la championne d'échecs qui jouait comme un homme. Mais revenons à Karlovy Vary. Au début du tournoi, les hommes se moquent de Viera. Pas pour longtemps. Elle bat le célèbre Albert Becker, puis suivent d'autres. Au cours de sa brève carrière, elle a réussi à battre les stars tels Sultan Khan, Sir George Thomas, Max Huve, champion du monde à plusieurs reprises, Frédéric Eads et d'autres. Suivent d'autres victoires aux championnats du monde, Hambourg, Prague, Folkestone, Varsovie, Stockholm, Buenos Aires. En 1931, Viera Menchikova commence à donner des cours d'échecs au Empire Chess Club, où elle développe encore d'autres activités importantes. Elle envoie également des articles à la revue Échecs Tchécoslovaques. En cette même année, elle devient aussi championne de la Tchécoslovaquie à Mnichovo Hradiště, où se déroulait le congrès de l'Union centrale des joueurs d'échecs tchécoslovaques. Viera a épousé le secrétaire de la Fédération britannique d'échecs, Rufus Henry Stevenson. Mais leur liaison est de courte durée. En juin 1944, Londres est bombardée. Viera Menchikova et ses proches se réfugient dans la cave, alors qu'un abri se trouvait dans le jardin. Cette réaction illogique était probablement due à la panique. Toute la famille trouve la mort dans les décombres de leur propre maison. La championne d'échecs reste toujours une légende et un exemple admiré. Il existe aujourd'hui la fondation de Viera Menchikova, créée en 1991. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous attendons vos idées, remarques et suggestions. Écrivez-nous, contactez-nous. Thank you.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.